ô Dieu, toi qui es notre Père en Jésus-Christ. Nous voulons te demander que dès ces premiers instants, nous soyons saisis par la présence invisible de celui qui est ton bien-aimé et qui veut devenir de plus en plus notre bien-aimé dans un monde où tout passe, où tout s'écroule. Que ta grâce nous donne d'être fondés sur le rocher des siècles et que les uns et les autres, nous soyons bénis de ta bénédiction, la seule qui enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucune peine. En Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes chers amis, mon souhait de bienvenue, le vœu qui se trouve dans mon cœur ce soir, en ouvrant cette nouvelle retraite Mahanaïm au manoir Diouville, ce vœu se trouve dans la fin de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Il termine sa lettre en disant au chapitre 13, au verset 13, une parole que vous entendez souvent à la fin d'une prédication, bien moi je vous la donne au début, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est vraiment le vœu qui habite dans mon cœur, qui est résumé dans cette parole tout à fait trinitaire. Il est question du Fils, il est question du Père, et il est question du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Et je voudrais, si vous me le permettez, vous demander d'abord qui participe pour la première fois à l'une de ces retraites. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles? Eh bien, ça fait plaisir de voir de nouveaux visages, même si nous les avons déjà rencontrés il y a quelques années en différents endroits. Nous nous sommes déjà reconnus. Je sais et que quelques personnes n'aiment pas du tout l'emploi de ce mot « retraite » parce que ça leur rappelle de lointains souvenirs qui ne sont pas toujours très agréables et on voudrait avoir oublié tout cela et ne plus retomber dans ce temps-là. Et pourtant, mes amis, je garde ce mot de retraite parce que les mots français ont un sens, ont une signification. Et je sais même que parmi vous, tous ne gardent pas un toujours mauvais souvenir d'une retraite à laquelle ils ont participé autrefois, car tout n'était pas mauvais dans ce qui se faisait autrefois. Il y a eu, bien sûr, des déviations. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que si nous nous réunissons ici, c'est vraiment non pas pour entendre une conférence des paroles, mais pour être ensemble, à l'écart, loin de toute vie mondaine, pour pouvoir nous recueillir et avoir l'occasion de méditer et de prier afin de faire mieux face à nos obligations matérielles, morales et spirituelles dans notre vie quotidienne. Voilà le sens d'une retraite, une mise à l'écart, un temps d'arrêt. loin du monde, loin de ses vanités, pour rentrer en quelque sorte en soi-même et y découvrir qui. Il y en a un qui est rentré une fois en lui-même. C'était le fils prodigue. Et quand il est rentré en lui-même, il a découvert qu'il avait un père. Dans son immense détresse, lui qui avait quitté la maison paternelle, il s'est souvenu que son seul espoir, alors qu'il était gardien de pourceaux, ce serait peut-être de retourner vers le père qui aurait pu être mort, mais qui pourtant vivait. Alors, toutes nos retraites que nous avons ici ou ailleurs ont pour base l'étude profonde des Saintes Écritures. Je pense que personne ne s'est illusionné sur ce qui allait se passer ici. Nous avons pris soin, dans l'invitation que vous avez reçue, de souligner qu'au manoir d'Youville, que vous avez atteint ce soir par la grâce de Dieu, il s'agissait d'une véritable immersion, c'est-à-dire d'être plongé dans les Saintes Écritures afin d'y découvrir qui, la personne même de Jésus, qui est l'auteur, la source et la cause de notre foi chrétienne. Si l'Écriture sainte est à la base de nos études dans ces journées, c'est parce que nous croyons que l'Écriture nous révèle la parole de Dieu. Quand nous lisons l'Écriture, ce ne sont pas des pensées humaines que nous écoutons, mais nous écoutons la pensée même de Dieu, qui est la vérité à l'égard de toutes choses, alors qu'ici-bas, les hommes pensent toujours pouvoir suivre leur vérité. Or, il ne sera pas question de nos vérités, mais nous allons essayer de découvrir ensemble la vérité en sondant les Écritures. Mais il faut savoir un peu dans quelle maison nous nous trouvons. Qu'est-ce que le manoir d'Youville? Je pense que plusieurs le savent, je veux l'espérer. Moi, je ne suis pas né au Québec, mais il y a des années que je connais le manoir d'Youville, et je suis heureux en pensant à la première fois où je me suis rendu dans cette maison. Le manoir d'Youville, où vous allez passer ces journées, est une des maisons appartenant aux Sœurs de la Charité, qu'on appelle, vous savez, les Sœurs Grises. C'est le monde qui, au temps de Marguerite d'Youville, pour se moquer de ces femmes qui voulaient se dévouer au service des pauvres, les ont calomniées. Et on dit que ces sœurs se réunissaient pour boire, qu'elles étaient grises. Comprenez? Et alors, par humilité, elles ont gardé ce titre de sœurs grises. Comme le mot chrétien, autrefois, à Antioche, a été donné par les païens aux disciples du Christ. C'était pas un beau nom. Mais le monde a appelé les disciples du Christ des chrétiens. Eh bien, on a appelé les sœurs de la charité des sœurs grises, comme si elles s'enivraient. Et c'était cela leur rencontre. Et j'étais très ému, en préparant cette retraite, de penser que cette année, eh bien, il y a 250 ans que cette œuvre a commencé. Tout a commencé à Ville-Marie en 1737, c'est-à-dire il y a combien? 250 ans. Et tout ça a commencé dans le cœur d'une femme, Marguerite Duville, la fondatrice des Sœurs de la Charité. Je dis simplement ceci pour que vous puissiez savoir dans quelle atmosphère vous vous trouvez. Marguerite Duville est née à Varennes en 1701. Et vraiment, elle a eu une vie que je trouve très remarquable, parce qu'elle a connu un peu toutes les épreuves que l'on peut avoir dans une existence. Née en 1701, elle se mariait en 1722. Et elle est devenue veuve en 1730. Elle avait deux enfants quand elle a perdu son mari. Et elle est décédée à Montréal en 1771. Il y a des livres biographiques sur elle. Il y en a un que j'aime particulièrement et qui est intitulé « Elle a beaucoup aimé ». Il y en a d'autres, plus petits, « Le vrai visage de Marguerite Duville ». Ce n'est pas pour glorifier la chair que je dis cela, mais c'est pour vous montrer que l'œuvre qui a germé dans son cœur, cette vision qu'elle a eue de consacrer sa vie aux pauvres, au lieu de se désoler sur son veuvage, eh bien, elle a communié à la grande souffrance du monde. Et aujourd'hui, eh bien, on trouve des groupes fraternels de sœurs grises à travers tout le Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique. Mais je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais simplement que vous ayez un peu connaissance de cette personne qui a eu cette vision de se donner avec quelques-unes de ses compagnes pour le service des pauvres. Il y a de cela 250 ans. Et qui est-ce qui en bénéficie aujourd'hui? C'est nous. Et je vous promets que c'est une grâce. Et je bénis Dieu qu'il y ait de telles maisons où nous pouvons encore nous rassembler dans une entière liberté et jouir de cette communion fraternelle. Je vous demande en particulier de prier aussi pour ses sœurs, en particulier pour sœur Alma Lantier, qui est la directrice et qui peut bien et qui devra quitter son poste après 7 ans de ministère. Parce que ce n'est pas rien d'entretenir une telle maison, de recevoir des groupes qui ne sont pas toujours aussi tranquilles que nos groupes Mahanaïm. J'ai vu une fois dans cette maison des jeunes qui se sont conduits vraiment comme des vandales, et cela m'a profondément chagriné. Eh bien, je veux croire que nous continuerons d'avoir pour nos sœurs un véritable témoignage. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Nous avons parlé de la maison, du manoir Duville, qui est cette Marguerite Duville. Qui ignore la signification du mot Mahanaïm, puisqu'on dit retraite, on a parlé de retraite, qui est-ce qui ignore la signification de ce mot Mahanaïm? Vous voyez, parce qu'on voudrait quand même savoir ce que c'est. Eh bien, Mahanaïm, c'est un mot hébreu qui se trouve une douzaine de fois dans l'Ancien Testament. Il indique un certain endroit, un lieu, le lieu où le patriarche Jacob, revenant après 20 ans d'exil dans son pays, a appris que son frère Ésaü, qui voulait le tuer, venait à sa rencontre avec 400 hommes. Elle eut très peur. Et il s'est mis à prier. Et vous trouvez la première fois le mot Mahanaïm dans le chapitre 32 de la Genèse. Alors qu'il était dans l'angoisse, tout à coup, il a eu une vision d'ange. Vous savez qu'il en avait déjà eu une en partant, hein. Dans son sommeil, il avait vu une échelle dressée entre le ciel et la terre alors qu'il était en fuite, et il voyait des anges monter et descendre, et Dieu lui avait parlé dans cette nuit-là. Elle lui avait fait une promesse. Mais voilà, 20 ans après, il revient dans son pays. Et puis il apprend que son frère vit toujours. Et il ne connaît pas les sentiments de son frère. Il voulait le tuer quand il est parti. Alors, il a une vision d'ange. Et il s'écrie, mais c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu Mahanaïm, qui veut dire deux groupes, ou deux bandes, ou, si vous le voulez, comme il l'a dit simplement, le camp de Dieu, qui se joignait à son camp, à lui. Il n'était plus seul. Mais il y avait un autre groupe qui venait à lui, et il a pu appeler ce lieu Mahanaïm. Et quand il a été question de faire des camps, au bord du lac Memphramagog, nous devions donner un nom à ce nouveau camp en 1970. Alors, nous nous sommes mis en prière avec quelques-uns et nous avons demandé à Dieu de nous guider. Quel nom donnerions-nous à ce camp? Il n'est pas question de donner mon nom ou le nom, un nom quelconque, mais quelle est ta pensée, Dieu? Et nous avons eu cette révélation. Nous l'appellerons Mahanaïm, qui veut dire, au fond, camp de Dieu. C'est pas le camp d'une église particulière, c'est pas le camp d'un groupe avec un certain credo à part, mais c'est une rencontre où tous sont conviés. Et dans les programmes que nous faisons pour ces camps, Mahanaïm, nous disons ceci: jeunes gens et jeunes filles de 18 ans révolus, croyants ou incroyants, parce que Dieu aime aussi les incroyants, hein, parce que nous l'étions autrefois, sans distinction de race et de confession. Mais l'âge est limité par la possibilité de coucher sous une tente et de participer à l'une ou l'autre des activités proposées, parce que dans nos camps, nous avons différentes activités que nous proposons à nos participants. Nous sommes toujours environ 80, mais au bout d'un certain temps, plusieurs personnes nous ont dit: mais c'est bien beau, vous vous occupez des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a fait sauter l'âge de 30 ans, on l'a laissé aller plus haut, mais nous, on ne peut pas venir dans un camp. Alors, au fond, ces retraites, Mahanaïm, sont le prolongement que nous avons donné à nos camps, pour que tous ici puissent participer à ces moments de recueillement, de retraite, mais dans un certain confort. Hein. Et j'espère que vous en jouirez. Vous avez ici une bonne nourriture, vous avez au camp du reste aussi, nous y veillons. Mais enfin, nous ne pouvons pas vous loger chacun dans une chambre. Maintenant, c'est peut-être un défaut ici. Vous avez remarqué que nous n'avons pas de chambre à deux lits. Mais c'est peut-être une bonne chose, même pour des couples bien unis, eh bien, d'être un peu séparés, pas pour longtemps, comme le dit l'Écriture, hein, pour un peu de temps afin de mieux se retrouver. Être en tête à tête avec Dieu. Eh bien, chacun de vous a sa chambre, a son repos, a lui. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes au courant sur ce que veut dire Mahanaïm, n'est-ce pas? Et nous voudrions que vous vous sentiez chez vous dans ce groupe. C'est un groupe qui se forme, qui se reforme, où d'autres s'ajoutent, mais vous ne partiriez pas avec une étiquette. Et on n'essayera pas de vous mettre dans un milieu ou dans un autre, ou de vous faire changer d'église, ou de mettre en épingle une église plutôt qu'une autre. C'est pas cela qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est de découvrir qui, le chef de l'Église. N'est-ce pas? Et il n'y en a qu'un. Vous êtes d'accord? Il y a plusieurs chefs, il n'y en a qu'un. Et ce chef, nous allons le voir, c'est Jésus-Christ. Alors, le thème vous a été annoncé, vous l'avez vu dans les formules d'invitation. Nous avons pensé à trois retraites pour cette année 1987, si nous la terminons. Trois retraites Mahanaïm, et nous avons proposé ce thème général, un message trinitaire. Et si nous avons employé cette formule, nous savions bien que le mot Trinité ne se rencontre pas dans la Bible. Mais nous employons quand même ce mot parce que nous croyons que la vérité qu'il représente se trouve implicitement, c'est-à-dire en termes équivalents dans les Écritures. Le mot Trinité, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Les témoins de Jéhovah vous le diront. Mais c'est pas une raison. Parce que tel mot ne se trouve pas de dire que ce que ce mot représente n'y est pas. Je ne veux pas entrer dans l'abus et les querelles stériles que ce dogme de la Trinité a suscité dans les premiers siècles de l'Église universelle. Mais je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, cette doctrine de la Trinité répond encore à un besoin essentiel de la piété chrétienne et que nous devons retrouver le sens profond de ce qu'est la Trinité. C'est une doctrine qui permet d'affirmer la nature divine du Christ, tout en sauvegardant la foi en un Dieu unique. Est-ce qu'il y a trois dieux dans le christianisme? Non. Il y a un seul Dieu. Mais si le Christ, le Fils, n'était pas Dieu, est-ce qu'on devrait l'adorer? Non. Non. Si le Fils n'est pas Dieu lui-même, nous ne devons pas l'adorer. Or, dans l'Église primitive, il y a eu des courants très tôt qui ont voulu nier la divinité essentielle du Christ. Et il a fallu les successeurs des apôtres, les pères de l'Église, se réunissent pour définir si vraiment le Christ était réellement Dieu. Et c'est ainsi ce dogme de la Trinité a été établi. La connaissance de l'histoire ecclésiastique nous fait vraiment comprendre pourquoi les conciles de l'Église universelle furent amenés à définir ce dogme pour bien se démarquer de quelle religion, d'une part, du judaïsme, qui disait il y a un seul Dieu, c'était vrai. Mais d'autre part, qu'est-ce qu'il y avait au début de l'Église primitive? Les païens, le paganisme avec plusieurs dieux. Alors, il fallait lutter, d'une part, contre cette idée qu'il n'y avait que Dieu, Elohim, le Créateur, mais que le Christ, était peut-être un envoyé, mais n'était pas réellement l'incarnation de Dieu. Alors, les conciles se sont donc réunis et on a cherché une formule pour affirmer l'unité de Dieu en présence du polythéisme, c'est-à-dire de ces religions où l'on adorait toute espèce de dieu, tout en se défendant d'être trithéiste, de dire qu'il y avait trois dieux dans le christianisme, mais que vraiment, les personnes divines, il y a trois personnes en Dieu, mais ces personnes constituent un seul et même Dieu, au nom duquel le chrétien est baptisé. Vous êtes baptisé en quel nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu. Et c'est ainsi que cela a été défini. Donc, quand on parle de Trinité, on ne parle pas de triade comme en Égypte ou en Inde. Il n'est question que d'un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Et je rappelle simplement que la formule trinitaire vis-à-vis du judaïsme au monothéisme intransigeant permettait de faire place à l'adoration pour le Christ, car il a droit à notre adoration, il est notre Seigneur, et aussi à la réalité permanente et continue des effusions du Saint-Esprit. Alors nous conservons donc le dogme de la Trinité tel qu'il se trouve implicitement dans le symbole des apôtres. Vous savez, ces symboles qu'on a fait dans l'Église primitive et qui résumaient les vérités essentielles du christianisme. Nous tenons donc à ces définitions que nous trouvons dans le symbole des apôtres au début du deuxième siècle et qui fait profession de croire en Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils unique et au Saint-Esprit, tel qu'il est défini donc dans le symbole de Nicée, Constantinople, qui affirme donc la divinité consubstantielle des trois personnes. Ces trois personnes restent une par la substance. Et je pense aussi au symbole de Saint Athanase qui est le plus précis et qui formule cette doctrine de la Trinité de cette façon. La Sainte Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, subsistant dans une unique substance ou essence ou nature divine, la seconde personne procédant de la première par voie de génération et la troisième procédant à la fois de la première et de la seconde comme d'un principe unique, ce qu'on appelle en théologie par voie de spiration. Mais si j'insiste tant sur ce message trinitaire, sur cette doctrine capitale, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle ne paraît plus comme le centre nécessaire de la pensée chrétienne. Les objections à la conception chrétienne de Dieu ne sont plus les mêmes. Le théologien, aujourd'hui, n'a plus à combattre, au fond, le judaïsme à sa droite, ni le polythéisme à sa gauche. Nos contemporains trouvent que la doctrine de la Trinité n'apporte aucune lumière sur les problèmes de la providence, de l'omnipotence, de l'omniscience de Dieu, qui sont au premier rang des préoccupations religieuses modernes. C'est un mystère. On n'aime pas les mystères aujourd'hui. On parle du mystère de la Trinité. Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire, ça? C'est un mystère. Notre psychologie, il faut le constater, elle a changé. La valeur explicative de ce dogme de la Trinité nous paraît
assez maigre. Nous ne pensons plus connaître une personnalité lorsque nous possédons une définition sur son essence, puisque ça peut nous dire son essence. Ce qui nous intéresse, ce sont les manifestations qui constituent sa personnalité. C'est ainsi que nous croyons mieux comprendre Jésus, même le caractère divin de sa personnalité, en le replaçant dans son cadre historique, plutôt qu'en apportant des spéculations liées sur son rôle dans la création du monde. Et je dirais franchement que dans le protestantisme, et même, mes amis, dans nos milieux évangéliques, la Trinité, qui semble ne pas avoir une base très scripturaire, assez large, eh bien, elle n'est plus mise au premier rang des vérités chrétiennes essentielles. Vous avez des églises où on ne parle que de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Hein? C'est très bon. Mais de quel Jésus parlez-vous? Jésus, dernière chance pour l'humanité. Mais qui est ce Jésus? Il y a des églises qui ne veulent entendre parler que de Jésus, mais ils ne savent rien d'autre. Et ça, je l'ai rencontré aussi bien en France que dans ce pays. Et je dirais que pour certains qui viennent du catholicisme romain, eh bien, on a cette idée que le dogme de la Trinité vient du catholicisme. Et alors, comme on a renié, soi-disant, le catholicisme, on a tout jeté. Mais l'Église du début, qu'est-ce qu'elle était? Elle était vraiment catholique. Dans quel sens? Universelle, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas tout rejeter et dire parce que c'était le catholicisme, ce dogme de la Trinité, c'est un dogme catholique. Oui, c'est un dogme catholique, mais c'est un dogme qui est vrai. Comprenez-le bien. C'est une vérité essentielle. Parce que vous avez des milieux, justement, qui sont tellement anti-ceci, anti-cela, que, comme on le dit, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Vous pouvez jeter l'eau, mais pas le bébé. Gardez ce qui est essentiel. Parce que vous avez des milieux où l'on parle beaucoup de Jésus, mais où peu connaissent vraiment son Père. Est-ce que vous connaissez le Père? De qui est-ce que Jésus parlait? Vous parlez de Jésus, mais lui Jésus, si vous le connaissez, si vous entrez un peu dans son intimité, de qui vous parlera-t-il? De son Père. Il n'y a que ça. Hein? Il ne nous parle que de son Père. Et puis, dans d'autres milieux, on vous parle beaucoup du Saint-Esprit. Tout de suite, on commence avec le Saint-Esprit. Mais peu sont en relation véritable avec celui qui donne le Saint-Esprit, avec ce Père des Lumières, de qui tous les dons descendent. On parle toujours des dons de l'Esprit, mais avez-vous le donateur? Et qui est le donateur? C'est le Père. Tout don parfait descend d'en haut. Alors, n'isolez jamais une des personnes de la Trinité. Alors, ne soyez pas... Moi, je crois qu'au Père. Et les autres, je crois qu'au Fils, ce qui compte, c'est Jésus. Et puis, pour les autres, ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Il y a trois personnes. Il y a ces trois personnes. Mais qui ne forment qu'un seul Dieu. Alors, vous pouvez distinguer en Dieu trois personnes, mais ne les séparer
jamais. C'est pour ça que j'ai parlé d'un message trinitaire. D'un Dieu trinitaire. Nous distinguons en Dieu trois personnes, mais nous ne les séparons pas. Et c'est cela qui nous donne vraiment la plénitude. Et voyez-vous, quand Dieu nous révèle vraiment le mystère de la divinité, c'est vraiment une confidence divine qu'il nous fait. Savoir qu'en Dieu, il y a un Père, qu'en Dieu, j'ai un frère, qu'en Dieu, je peux connaître la puissance de son esprit, le lien qui unit le Père et le Fils, eh bien, c'est vraiment le baiser divin que je reçois dans ma vie. C'est une vraie révélation. Et quiconque n'a pas reçu cette confidence divine, eh bien, il n'est qu'un étranger ou tout au plus un serviteur. Ça, c'est la condition des païens ou des juifs, mais ce n'est pas celle d'un chrétien authentique. Qu'est-ce que Jésus disait aux siens? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu, je vous l'ai fait connaître. Eh bien, voyez-vous, mes amis, dans cette simple introduction, je voudrais souligner que l'espoir de notre cœur, c'est que quand nous aurons fini cette retraite, vous ayez avec Dieu cette relation d'amitié. Que vous soyez vraiment les amis et les enfants de ce Père des cieux. Mon but dans cette retraite n'est cependant pas de vous présenter les formules trinitaires que nous trouvons dans l'Ancien Testament et qu'éclaire le Nouveau Testament, mais de nourrir vos âmes de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans cette retraite, nous y arrivons, nous prendrons donc l'Épître aux Éphésiens comme toile de fond, où Dieu est nommé le Père de gloire. Le Père de gloire, le Père glorieux. Nous allons entrer dans la connaissance de Dieu connu comme un Père, le Père de gloire. Et si Dieu nous permet d'arriver en octobre, nous chercherons, en survolant la première épître aux Corinthiens, de découvrir Jésus qui est appelé lui aussi le Seigneur de gloire. Mais les mêmes expressions sont employées. Dans Éphésiens, c'est le Père de gloire. Dans les Corinthiens, c'est le Seigneur de gloire, parlant de Jésus crucifié. S'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Et puis, si nous arrivons au mois de novembre, nous prendrions la première épître de Pierre, où nous trouvons la mention du Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de gloire. Vous voyez que les mêmes expressions sont employées pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Le Père de gloire, le Seigneur de gloire, l'Esprit de gloire. Alors nous serons confirmés par les Écritures que dans l'Ancien Testament, nous avons la révélation du Créateur et Père souverain de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu pour nous. Puis, quand vous arrivez dans les évangiles, c'est Dieu avec nous, Emmanuel, qui se révèle. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu pour nous, le Créateur. Dans les évangiles, Dieu avec nous. Et depuis la Pentecôte, selon tout le Nouveau Testament, c'est Dieu en nous. Vous l'avez bien saisi. Dieu pour nous. Dieu avec nous et Dieu
en nous. Vous voyez cette révélation progressive de Dieu. Eh bien, que Dieu nous donne de la saisir et de nous amener à toute la plénitude de Dieu. Alors, ce soir, nous allons faire l'étude, à la lecture cursive de cet épître aux Éphésiens. Et nous vous avons distribué cette lettre de Paul aux Éphésiens qui a été donc publiée il y a quelques années et qu'on appelle la traduction en français courant. Et j'ai eu le privilège, il y a quelques années, quand on a lancé le Nouveau Testament en français courant, de le présenter dans une grande salle de Montréal avec le père Léandre Poirier, qui est franciscain, et notre ami Olivier Béguin, notre ami bien regretté, qui était secrétaire général à ce moment-là de la Société biblique universelle. Et je connais très bien, très particulièrement, celui qui a dirigé ces traductions, qui est le professeur Margot de Suisse. Et je dirais simplement que ce français courant a des lacunes, c'est vrai, mais pourtant, il a été fait pour que des gens qui n'ont pas un grand vocabulaire puissent tout de suite comprendre l'essentiel du message. Et là, nous pouvons vous dire avec force que dans le français courant, vous avez réellement l'essentiel du message. Cela me ramène à 60 ans en arrière, quand je gardais les vaches, car vous savez, j'ai gardé les vaches moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Et j'avais mon petit testament dans la poche, mon Nouveau Testament. Mais c'était un Nouveau Testament assez compliqué, c'était une version très littérale, et j'essayais d'apprendre par cœur cet épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Et je répétais cela avec mes vaches. Puis je trouvais que c'était difficile à mémoriser ces mots, et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mots que je ne comprenais pas du tout. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'arrive à les comprendre, même dans le sens très littéral. Mais j'étais ce désir de faire connaître dans un langage très proche du vocabulaire commun des mortels les vérités essentielles du christianisme. Et voyez-vous, j'espère que vous partagerez mon opinion, cette lettre aux Éphésiens, pour moi, je l'appelle le cantique des cantiques du Nouveau Testament. Et vous allez voir. J'espère que vous aurez aussi une conviction. Et nous allons donc en faire simplement la lecture. Ce matin, ce soir, nous lisons donc dans le français courant, mais ensuite, dans les études, vous prendrez vos Bibles et puis vous pourrez comparer, n'est-ce pas ? Nous prendrons les Bibles second que vous avez, ou Jérusalem, peu importe votre traduction. Mais nous voudrions faire ensemble cette lecture dans un même texte. Et ce texte, c'est le français courant. Vous pourrez garder cela, puis comparer, et si vous ne comprenez pas tellement bien dans votre Bible, vous reportez à ce français courant où les mots sont plus simples. Mais je lis cette petite introduction. La lettre aux Éphésiens, et je vous demande de suivre. Parce que si vous suivez, eh bien, ça entre par vos yeux et aussi par vos oreilles, puisque vous écoutez ma lecture. Lettre aux Éphésiens. Il y a 1900 ans, en Asie mineure, qui est la Turquie d'aujourd'hui, le nombre des églises chrétiennes augmentait rapidement. Les communautés étaient en relation les unes avec les autres. Celle d'Éphèse jouissait d'un prestige certain. En effet, l'apôtre Paul, le grand missionnaire et théologien, y avait séjourné près de 2 ans au cours d'un de ses nombreux voyages. On peut même dire à peu près 3 ans. Il était d'abord quelques jours, puis après 3 mois, puis après plus de 2 ans. Donc, ces 2 ans et plus. Il restait en étroite relation avec ces diverses églises qu'il avait visitées. Il leur écrivit de nombreuses lettres, certaines ont disparu, d'autres se trouvent dans le Nouveau Testament. La lettre dite aux Éphésiens visait un large public. L'absence de salutations personnelles au début et à la fin, l'ampleur de son enseignement nous font penser qu'elle a été écrite pour d'autres chrétiens que les seuls Éphésiens. De tout temps et en tout lieu, les églises ont eu la certitude que cette lettre était indispensable à notre compréhension de l'Église de Jésus-Christ. Elles ont donc cherché à transmettre cette lettre aux chrétiens comme un écrit toujours actuel. Et j'espère que c'est l'expérience que nous ferons. C'est à la fin de sa vie, et en prison, à Rome probablement, que Paul écrit cette lettre. Il veut laisser aux chrétiens une image universelle de l'Église, tout en les enracinant dans la réalité si concrète des relations personnelles. À cette époque, la communauté n'était qu'un petit troupeau de croyants au milieu d'une foule indifférente ou même hostile. Vous trouvez que ça a beaucoup changé? Aujourd'hui, les croyants sont-ils si nombreux que ça? C'est toujours actuel. Pourtant, c'est la personne de Christ que Dieu a ramené de la mort à la vie et a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste, qui lui confère sa dimension cosmique, c'est-à-dire mondiale, universelle. Désormais, l'union intime et spirituelle de chacun avec le même Jésus-Christ devient la pierre de touche des relations entre les chrétiens. Si vraiment nous avons une relation avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous êtes pour moi? Des frères? Vous osez le dire? Est-ce qu'on est des frères? Si on a un même Père, nous sommes des frères. Les musulmans ne peuvent pas dire ça. Ils disent Allah est grand, mais ils n'oseraient jamais dire qu'il est leur Père. Allah est grand. Mais nous avons justement cette chose merveilleuse. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Mais par qui? Par Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas séparer le Père de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais les trois personnes sont toujours dans une unité merveilleuse. Et c'est ça la plénitude. Et voyez-vous, mes amis, le désir de mon cœur, c'est que vous repartiez d'ici avec cette plénitude et avec des possibilités que vous ignoriez peut-être. Je ne vous prends pas pour des ignorants, mais simplement, mais je ne savais pas que j'avais tout cela. Je ne savais pas que Dieu pouvait tout cela pour moi et que Dieu voulait tout cela pour vous, oui. Et alors, je dis cette dernière phrase, désormais l'union intime et spirituelle de chacun avec le même Jésus-Christ devient la pierre de touche des relations entre les chrétiens, les membres d'une même famille et les hommes de toute race. Alors, nous allons lire tranquillement cet épître, parce que comme cela, vous aurez un aperçu ce soir du contenu de l'épître. Et puis après, alors, nous allons, matin, après-midi et soir, revenir sur ces chapitres. Mais ce soir, nous faisons une lecture assez rapide, mais en demandant à Dieu vraiment d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions recevoir déjà cette parole. Alors, nous lisons donc dans ce français courant, l'adresse et la salutation. De la part de Paul, qui, par la volonté de Dieu, est apôtre de Jésus-Christ. Aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Éphèse et qui sont fidèles dans l'union avec Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Les bienfaits que Dieu nous a accordés en Christ, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il l'a voulu parce que vous en valiez la peine, ou parce que moi j'en valais la peine. Il l'a voulu parce que cela lui plaisait. Vous ne voyez pas que c'est beau ça? Il l'a voulu cela, parce que cela lui plaisait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par la mort du Christ, nous sommes délivrés et nos péchés sont pardonnés. C'est vrai? Vous le savez? Vous en êtes sûr? Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée petitement, avec abondance, en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret qu'il avait librement décidé par avance d'accomplir en Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan, et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Là, souvenez-vous que Paul qui écrit est un juif, et que les juifs ont été les premiers à espérer dans la venue du Christ, n'est-ce pas? Mais s'adressant aux païens, il leur dit au verset 13, « Vous aussi, quand vous avez écouté le message, et nous, nous l'avons aussi écouté hein, un jour, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors, Dieu vous a marqué à son nom en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. » Est-ce qu'il a été donné le Saint-Esprit? Oui, il n'est pas à donner. Il a été donné à qui? À ceux qui ont cru en son nom. Le Saint-Esprit est la garantie du salut que Dieu a promis à son peuple comme héritage. Il nous assure que nous posséderons cet héritage quand notre délivrance sera complète, parce que nous sommes sauvés en espérant. Comprenez-vous? Louons donc la grandeur de Dieu. Un jour, ce sera complet, notre salut. Alors, en attendant, vous avez la prière de Paul. À cause de tout cela, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je me souviens de vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera à Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé, quelle est la richesse de l'héritage magnifique qu'il réserve pour ceux qui lui appartiennent, et de quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ de la mort à la vie et l'a fait asseoir à sa droite ou dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé toute chose sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Nous arrivons maintenant au chapitre 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre nature humaine et nous accomplissions ce que voulait notre corps et notre actuel. Hein. À cause de ce que nous étions naturellement, nous étions destinés à subir la colère de Dieu comme les autres. Mais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Où est Jésus? Dans le monde céleste. Où nos cœurs devraient-ils être? Là où est Jésus? Nous aussi dans le monde céleste. Il a fait cela afin de démontrer pour tous les temps à venir la richesse extraordinaire de sa grâce par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Au moyen de la foi, ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes œuvres, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre unité en Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, puisque Paul s'adressait donc à des anciens païens, vous que les juifs appellent incirconcis, alors qu'il s'appelle circoncis, par référence à un signe que les hommes se font dans la chair, vous donc, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. En ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers et n'apparteniez pas au peuple choisi par Dieu. Vous étiez en dehors des alliances basées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Qui était ce peuple? Israël, hein. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par la mort du Christ. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former de ces deux races un seul peuple nouveau dans l'union avec lui, en établissant ainsi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Par la croix, il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliées avec Dieu. Ainsi, le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les non-juifs, qui étiez loin de Dieu, et aux juifs, qui étaient proches de lui, puisqu'ils avaient la connaissance de la loi. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'aide du même Saint-Esprit. Message trinitaire, hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers et des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu. C'est bon. Vous êtes, vous aussi, la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et lui permet de grandir pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, une maison dans laquelle Dieu habite par son esprit. Voilà la vraie Église. Alors maintenant, l'apôtre continue en nous montrant la tâche dont il a été chargé en faveur des non-juifs. C'est pourquoi, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, parce qu'il est en prison, c'est parce qu'il a prêché aux païens, j'adresse ma prière à Dieu. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne Jésus-Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs à l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle, grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé par l'action de sa puissance. Je suis moins que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie du Christ, et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan secret de Dieu doit se réaliser. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi conformément à son intention éternelle, qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec lui et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous procurent un avantage glorieux. Puis, on entre dans l'amour du Christ. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, reçoit son vrai nom. Je demande à Dieu que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, et que, avec les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large, est long, est haut, est profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement, et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et dans tous les temps, ça veut dire présent, avant l'an 2000. Parce que nous sommes près de l'an 2000. Qu'est-ce que Dieu peut faire? N'est-ce pas merveilleux? Alors là, nous terminons ici la partie qu'on appelle doctrinale de l'Épître. Les vérités fondamentales que nous allons étudier demain matin et qui sont merveilleuses. Mais on est à la moitié de l'Épître. Nous allons continuer. Vous allez peut-être trouver que c'est trop long.
Non.
Les gens sont encore au cinéma. Les gens du monde. Alors, vous pouvez bien rester encore un moment. Et puis, j'espère que ma lecture ne vous endort pas. Si vous y pensez à ce que nous lisons, ça doit vous dilater déjà et remplir votre cœur. Parce que les mots sont simples, ça veut dire quelque chose. Ayez un cœur d'enfant. Alors, l'unité du corps. Je vous le demande donc, moi, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Quand est-ce qu'il nous a appelé? Avant la fondation du monde. Il avait une pensée. Mais c'est à cela que nous allons revenir demain. Alors, quelle était la pensée de Dieu avant la fondation du monde pour vous? Alors, il nous a appelés. Mais qu'est-ce qu'il voulait de nous? Eh bien, maintenant, nous allons vivre d'une façon conforme à la manière dont il nous a appelés. Non pas aujourd'hui, depuis ma conversion. Ça va beaucoup plus loin que ma conversion. Hein. Ça remonte plus haut à la pensée éternelle de Dieu. Avant qu'il ait créé le monde, Dieu avait une pensée pour toi. Et il voudrait que tu vives selon cette pensée qu'il avait pour toi avant la chute. C'est formidable. Et c'est cela que nous devons retrouver. C'est avant la chute qu'il faut revenir. Qu'est-ce que Dieu voulait pour toi avant la chute? Le sens de ta vie, pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Verset 2. Soyez toujours humble, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit. Est-ce que l'Esprit divise? Donc, qu'est-ce qu'il fait l'Esprit quand c'est vraiment le Saint-Esprit? Il unit. Il vous sépare du mal et du monde, mais il unit les enfants de Dieu. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Nous aurons l'occasion de voir ça. Chacun de nous a reçu un don particulier, conformément à ce que le Christ a donné. Comme le déclare l'Écriture, quand il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui et il a accordé des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a accordé des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres d'être évangélistes, à d'autres d'être pasteurs et enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et poussés çà et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout jusqu'au Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Alors la vie nouvelle en Christ. Voici donc ce que je dis et déclare au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens qui suivent leurs pensées inutiles et ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Vous croyez que ce n'est pas cela notre temps? Ils ont perdu tout sentiment de honte. On a annoncé un concours de condoms à l'université de Cherbourg. Et ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu parler de lui et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature qui déterminait la façon dont vous vous conduisiez dans le passé, cette vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il faut que vous soyez complètement renouvelé dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi, rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché, ne soyez pas en colère durant toute la journée. Nous verrons dans l'autre version ce qu'il est dit, n'est-ce pas, mais là, c'est très simple. Ne donnez pas prise au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se mette à travailler pour gagner lui-même sa vie, de façon honnête, et avoir de quoi aider les pauvres. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles, qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement. Chassez loin de vous tout sentiment amer. toute irritation, toute colère. Éliminez les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et mettons cette vie dans la lumière. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, est-ce que c'est vrai? C'est une conséquence. Hein? Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. Vous êtes membre du peuple de Dieu, par conséquent il ne convient pas que n'importe quelle forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupide ou sale. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun homme immoral, impur ou avare, car être avare est une façon d'adorer les idoles, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles insensées. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de distinguer ce qui plaît au Seigneur. N'ayez rien de commun avec ceux qui accomplissent des actions inutiles qui appartiennent à l'obscurité. Mettez plutôt ces actions en pleine lumière. On a honte même de parler de ce que ces gens-là font en cachette. Quand toutes ces actions sont mises en pleine lumière, leur vraie nature se révèle clairement. En effet, tout ce qui est clairement révélé devient lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi ». Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Parlez les uns avec les autres, au moyen de psaumes, d'hymnes et de cantiques. Chantez des cantiques et des psaumes au Seigneur en le louant de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà une partie que certains n'aiment pas beaucoup. Femmes et maris, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, de la même façon que le Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi pour rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Car il voulait se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure, sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme le déclare l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. C'est une vérité importante qui est révélée dans ce passage. Pour ma part, j'estime qu'elle se rapporte au Christ et à l'Église. Mais elle s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Maintenant, il y a les enfants et les parents. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres, d'ici-bas, avec crainte et tremblement, et d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes seulement. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maître, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves, abstenez-vous de formuler des menaces, rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître dans les cieux, qui n'agit pas différemment selon les personnes. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous prêts. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l'Esprit. Faites tout cela dans la prière, en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant dirigé par l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour tous les membres du peuple de Dieu, priez aussi pour moi, afin que Dieu me donne les mots justes quand je vais parler, et que je m'exprime avec assurance pour faire connaître le secret de la bonne nouvelle. Je suis ambassadeur pour cette bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. Et nous arrivons aux salutations finales. Tychique, notre frère et fidèle aide dans l'œuvre du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent, afin que vous sachiez ce que je deviens. Je vous l'envoie donc en particulier pour vous dire comment nous allons et pour redonner ainsi le courage à vos cœurs. Que Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus-Christ donnent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. d'un amour immortel. Nous venons de lire donc cet épître.